Bienvenue à toi, ici, maintenant, d'où que tu viennes, où que tu ailles, quel que soit ton état, l'état de ta relation à Dieu, de ta relation à l'autre, de ta relation à toi, que tu sois en paix, en révolte, ou toute autre chose, sois bienvenue, sens-toi accueilli dans ce moment que nous passons ensemble. Plaisir aussi d'accueillir Thomas Salamoni, pasteur à Aglan, une autre église de l'Afrique et notre association d'église, et Philippe est dans son église ce matin. Nous voulons prier. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons nous placer devant toi et te demander de bénir ces instants, de préparer nos cœurs à l'écoute de ta voix, à préparer notre esprit à comprendre ce que tu veux nous apporter ce matin et à conduire notre corps pour le mettre en pratique. Bénis ces instants, par le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons proclamer que Dieu est digne.
Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, dignes-tu, agneau. Dignes-tu, agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Dignes-tu, agneau de Dieu, dignes-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein.
Dignes-tu, agneau de Dieu, agneau qui s'est sacrifié sur la croix pour nous. Nous voulons avoir un moment maintenant pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous au travers de son sacrifice et de sa résurrection, de nous assurer d'une relation pleine et complète avec Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. » En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons maintenant un moment en musique pour nous immerger dans la signification de ce sacrifice, de cette résurrection, de sa signification pour moi. Savourons de nous connecter à Dieu sans intermédiaire. Nous lisons dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres, et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et plein de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Jusqu'ici la parole de Dieu.
Bonjour à chacun, à chacune. Je suis vraiment heureux d'être au milieu de nous ce matin. C'est toujours un cadeau de pouvoir visiter une autre communauté de la même famille, même s'il y a d'autres familles qui sont tout aussi bien, voire meilleures que la nôtre. Mais bon, on fait quand même partie d'une famille d'église. Et puis c'est un cadeau aussi de pouvoir échanger les dons les uns avec les autres. Et comme cela a été dit, votre pasteur Philippe Anchaud, enfin un de vos deux pasteurs, si j'ai bien compris, hein, lui, il est à l'église évangélique arc-en-ciel à Glan. C'est l'église que je sers, pas mon église. Quand un pasteur dit « c'est mon église », suivant qui, il faut un petit peu se méfier. Alors l'église de l'arc-en-ciel n'est pas mon église, mais l'église que je sers avec joie. Et, enfin, vous verrez, je pense que l'arc-en-ciel est la meilleure part ce matin, mais voilà. Le titre pour ce matin, c'est le top modèle pour l'Église. Et saviez-vous qu'il en existe un ? Alors peut-être le fait de parler de top modèle, ça vous dites, bon, attends, c'est quoi encore comme idée ? J'espère que vous n'êtes pas trop choqués. Mais il me semble que cette notion de top modèle peut nous aider à mieux apprécier le texte qu'Éric a lu tout à l'heure. Merci d'ailleurs. Et je vous propose d'entrer là-dedans. Alors j'ai appris que Philippe, au culte de la rentrée, vous avez déjà fait un message sur Éphésiens 3, 19 à 20, et qu'il y aura encore Éphésiens d'ici peu. Donc je suis heureux d'apporter un texte de cette plus belle des lettres de Paul en ce qui concerne l'Église. Et si un jour vous posez des questions sur l'Église, oulala, à quoi ça sert ? C'est finalement plus compliqué qu'autre chose, surtout du temps du Covid. Ben, lisez, méditez Éphésiens. Et vous allez voir qu'il y a toujours des raisons que l'Église soit là. Le top modèle des Éphésiens. Alors le texte que nous venons d'entendre est en fort contraste avec ce qui le précède, parce que juste avant que commence la section qu'on a entendue, Paul termine un magnifique développement sur l'unité de l'Église en parlant de cette diversité que Dieu a créée avec des ministères pour aider l'Église à grandir, à ce que chacun trouve sa place. Et puis ça culmine sur cette affirmation que l'objectif de l'Église, à part d'évangéliser le monde, ça c'est déjà donné, hein, c'est que chaque chrétien, chaque membre de l'Église, où qu'il en soit, puisse grandir à l'image parfaite du Christ. C'est juste magnifique. Alors, regardez autour de vous, vous tous qui êtes ici, l'objectif de ce qu'on vit, c'est que rendre un culte à Dieu, bien sûr, ça c'est point numéro un, mais le deuxième point, vous trouver ensemble pour que dans l'interaction des dons des uns avec les autres, vous puissiez grandir, vous édifier mutuellement. C'est magnifique. C'est un très beau portrait. Et puis, c'est un petit peu la douche froide. Et vous l'avez peut-être entendu, je vais relire ces trois versets au chapitre 4 d'Éphésiens, donc les versets 17 à 19, il y a ce magnifique portrait d'une sorte d'idéal de l'Église, qu'elle devrait être. Et puis Paul continue de la manière suivante. Voici donc ce que je dis et que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Bon, j'espère que Paul savait de quoi il parle, parce que ce n'est pas un portrait très agréable. Et puis pourquoi ça vient comme ça, boum, après ce magnifique modèle de l'Église dans sa pureté, dans sa croissance vers l'accomplissement en Christ. Pourquoi ce portrait cru d'une société que lui, il connaissait ? Comme la plupart des grandes villes de l'Antiquité, Éphèse était un centre de commerce, de croisement de cultures et de cultes, avec ce que ça impliquait comme toutes sortes de commerces, dont aussi de débauches. Et voici ce qu'on peut appeler le top modèle des Éphésiens. C'est la représentation d'une statue de la déesse Artémis, qui se trouve actuellement à ce qu'on appelle le musée d'Éphèse à Selçuk, qui est un petit peu au sud de la ville d'Izmir, et d'Izmir d'aujourd'hui. Vous voyez un petit peu ce portrait avec un personnage féminin, bien, bien féminin, représenté. Et vous ne savez pas que Artémis était notamment la déesse de la fécondité. Voilà ce que je pense pouvait être plus ou moins le top modèle pour les gens d'Éphèse, en tout cas ceux qui rendaient un culte à cette déesse-là. Et l'apôtre s'adresse à des personnes qui viennent de cette ville, de cette culture, avec différents arrière-plans, mais un arrière-plan profondément idolâtre. Et il se pose peut-être quand même des questions. Il se pourrait que dans cette église, certaines personnes ne sont pas encore tout à fait sorties de leur passé. On ne change pas de style de vie du jour au lendemain. D'où ce non sans concession pour ce type de vie et le comportement concret qui va avec. Et ce n'est pas tout. Vous l'avez entendu en suivant le texte, Paul dénonce un certain nombre d'autres choses auxquelles il dit non. Le mensonge, la colère excessive et persistante, le vol sous différentes formes, et surtout toutes sortes de paroles inappropriées. Alors, c'est un vrai tsunami de méchanceté qui est décrit dans ce texte. Et ce sont, enfin, je ne sais pas comme vous les entendez, ce sont quand même souvent des paroles qui dérangent. Quand je suis arrivé à l'église de l'Arc-en-Ciel à Gland, j'ai visité les différentes familles de l'église et un jour, j'ai visité une famille dont le mari ne venait plus à l'église depuis quelque temps. Par contre, son épouse avec les enfants continue à venir régulièrement. Et en fait, au cours du repas, sans même que je pose la question, le mari, qui se doutait bien que la question m'intéressait, m'a dit, écoutez, si je ne viens plus à l'église, c'est que j'en ai marre qu'on parle tout le temps du péché. Alors j'ai écouté, et puis j'ai essayé de ne pas trop contredire, parce que voilà, qu'est-ce que j'en savais? Enfin, j'en savais quelque chose du péché, mais voilà. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que vraiment dans cette église, on a une sorte de focalisation sur le péché? Est-ce qu'une solution pourrait être d'en parler peut-être différemment? Parce que c'est vrai que, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais ce n'est pas forcément très agréable de parler du péché. Pourtant, si vous lisez la Bible, c'est quand même un sujet qui est, en particulier dans les lettres, joliment omniprésent. Alors, peut-être vous conviendrez, ce n'est pas un sujet très agréable. Et s'il faut peut-être continuer à l'entendre, entendre en tout cas la parole et aborder le sujet, c'est peut-être que ça pourrait rester un problème, même pour moi, même pour vous, et que de ne plus en parler, ce serait peut-être un petit peu embêtant. Alors, ce rappel de ce qui est ténébreux dans l'humain est assez typique pour les auteurs des lettres aux églises, donc il faut croire que même dans les plus grandes, belles des églises de l'époque, ça restait un sujet d'actualité. Et en fait, c'est assez normal qu'on continue à rappeler de ce qu'on est appelé à ne plus faire. Cette partie du fondement de la vie chrétienne qui consiste à ce que nous n'allons pas faire, ce que nous allons combattre si jamais ça nous tente. Et je crois que ça reste une réalité jusqu'à la fin de notre vie. J'aime beaucoup le commentateur Eugène Peterson qui est décédé il y a quelques années, et qui a parlé de ce sujet sur la base d'Éphésiens de la manière suivante. Aucune des négations de Paul, les négations de ce qu'il n'y a pas à faire ou de ce qu'il faudrait essayer d'éviter, ne requiert quelque chose d'héroïque. Retenue modeste, effort minimal, mettez de côté la fausseté, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, pas de vol, pas de paroles mauvaises, ne pas attrister le Saint-Esprit, pas de chamaille, pas de calomnie, pas de malice, pas de débauche. Ces négations nomme des actions ou des attitudes qui étaient acceptées comme monnaie courante dans la culture païenne des Éphésiens, certaines même cautionnées. Alors, peut-être n'est-ce pas si évident d'éviter ces choses comme Peterson le décrit, mais nous avons clairement besoin d'entendre des noms de Dieu par rapport à ce qui abîme notre humanité et celle des autres. Donc, si c'est avec un peu de chance, vous allez continuer à entendre parler de ces noms ici à l'église de Mérin. Ces noms. Par contre, s'il y a des noms, il y a aussi des oui, évidemment. Et puis, notamment, le oui au top modèle de la vie nouvelle. Et on l'a entendu tout à l'heure, le top modèle de l'église, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas tant quelqu'un qu'on voit, mais c'est quelqu'un qu'on entend, c'est quelqu'un qu'on découvre, non pas avec les yeux, mais avec les oreilles. Et c'est bien ce que Paul fait, il introduit le top modèle pour les chrétiens, et je vous relis les versets 20 à 24 de notre texte. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ce qui était vrai pour les Éphésiens reste vrai pour nous, en tant que chrétiens, ou en tant que peut-être personne à la recherche. Au fur et à mesure que nous rencontrons Jésus-Christ, au travers de l'Écriture, par le modèle de frères et de sœurs dans la foi, et avec l'aide de l'Esprit qui continue à nous éclairer, plus on va commencer à lui ressembler. C'est tout un travail que Dieu fait avec chacun qui s'approche de lui ou se laisse approcher de lui. Il commence à faire son travail de spécialiste, que je dirais c'est le travail du divin potier. En m'approchant de Dieu par Jésus-Christ, je m'approche du Père Céleste et je commence à devenir membre d'une famille très très particulière. C'est le Père Céleste qui est ce que j'appellerais le divin potier. C'est le Saint-Esprit qui est comme l'eau dont le potier a besoin pour façonner et malaxer la terre que nous sommes. Et puis le modèle, je précise, et pour les hommes et pour les femmes, parce que ça n'a rien à faire avec la coupe de cheveux ou autre, encore qu'on ne sait pas très bien quelle était celle de Jésus. Donc, le modèle d'après lequel le Père Céleste transforme chacun de nous, c'est Jésus-Christ. C'est vraiment un véritable travail que Dieu fait avec moi, qui travaille avec moi, et c'est vraiment un vis-à-vis entre moi et Dieu, entre moi et Jésus, entre moi et le Saint-Esprit. Et c'est glorieux, c'est magnifique. Moi et Dieu. Dieu et moi. Je ne sais pas comment vous avez entendu cette dernière minute là. Peut-être vous dites, ah, ça c'est chic, Dieu et moi, c'est cool, yes, moi ça me va. Seigneur, toi et moi, on fait une bonne paire. Et peut-être en entendant, vous êtes dit, attends, cher pasteur Salamoni, je vous entends bien, mais pour moi il y a comme un petit peu une lumière orange en tout cas qui clignote là. Parce que ça va tellement bien dans notre temps. Ah, Dieu et moi. Ah, bon, oui, Dieu et moi, ça, pas de problème. Cool. Le problème dans la manière dont je provoque un peu, hein, dans la manière dont je parle, je viens de parler, c'est que c'est tellement, tellement le chrétien centré sur lui-même, le chrétien pour qui n'a pas de problème avec Dieu, surtout s'il est de plus en plus lui seul avec Dieu. Mais alors les autres, je vous ai demandé tout à l'heure de regarder autour de vous. J'imagine bien que Merin, ah oui, ça c'est Merin quand même. Hein. Que de magnifiques exemples de foi chrétienne. Hein. Et ça m'a fait plaisir de revenir tout à l'heure et de revoir un nombre certain de personnes qui pour moi étaient, et sont encore un peu des exemples. C'est cool. Et vous croyez que ces exemples sont parfaits? Si vous avez appris à les connaître, vous savez que ce n'est pas le cas. Et votre serviteur ne l'est pas non plus. Non, on a besoin des autres. Et cette transformation, alors, est-ce que j'ai mis peut-être sur pause, je ne sais pas, comme quoi j'ai dit que je n'étais pas parfait. Hein, donc, c'est bon, voilà. Il y a besoin de passer du « je » au « nous ». Parce que voyez-vous que cette transformation ne se fait pas avec moi et Dieu. Bien sûr que Dieu pourrait m'expulser sur une planète, ce sera peut-être bientôt possible, où je suis seul avec lui, et puis là, ça, il fait comme il veut, et puis ça va très bien. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que la parole le prévoit. Paul revient encore une fois sur tout ce qu'il ne faut pas faire, et puis après, il y a ce passage sur lequel j'aimerais baser la deuxième ou dernière partie du message. J'aimerais relire au chapitre 4, depuis le verset 32 jusqu'au verset 2 du chapitre 5. J'aimerais relire cela. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Imitateur de Dieu. Ce passage dans Éphésiens est le seul texte dans la Bible où il est aussi clairement question d'être imitateur de Dieu. Alors vous l'avez probablement lu ailleurs, Paul peut dire « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur du Christ ». D'ailleurs, ça va venir tout à l'heure, suivez l'exemple du Christ. Mais ici, il est quand même question d'être imitateur de Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait, là? Comment vous réagissez à ça? Être imitateur, non pas de Sylvain Dupertuis ou je ne sais pas, du responsable du groupe de jeunes, Célina, ou comme ça, mais imitateur de Dieu. Évidemment, c'est avant tout une histoire de famille, puisque Paul dit « puisque vous êtes les enfants bien-aimés du Père ». Et être imitateur de Dieu, c'est avant tout apprendre à vivre dans cette relation avec le Dieu trinitaire et les uns avec les autres. Je crois que si ici, Paul peut parler d'être imitateur de Dieu, c'est parce que avec ses contemporains qu'il a instruits dans la foi chrétienne, ils avaient déjà cette expérience trinitaire. Relation avec le Père Céleste, avec Jésus, le Seigneur et Sauveur, au travers et aussi avec le Saint-Esprit de Dieu. Ils étaient déjà dans cette réalité de relation diversifiée, même au niveau de la divinité. Ils étaient déjà dans une réalité profondément communautaire. Et si j'ai tout à l'heure insisté sur moi et Dieu, oui. Bien sûr, c'est cet énorme cadeau qu'en tant qu'enfant du Père, je peux être en relation avec le Dieu trinitaire Et je fais partie de cette famille, mais je n'en fais pas partie tout seul. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très fort, de très important, de se rendre compte qu'on ne pourra jamais être... J'essaie de mesurer un peu mes paroles, moi et Dieu, ce ne sera jamais suffisant pour moi pour vivre, pour grandir, pour avancer. J'ai besoin de mes frères et sœurs, que ce soit dans la communauté ou dans des groupes de maison et ailleurs. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque vous êtes ces enfants bien-aimés, membres de la famille de Dieu, qu'est-ce que ça change de mettre l'accent sur cette notion communautaire? Cette imitation de Dieu se résume, et ça peut faire penser, c'est un peu banal, hein, vivez dans l'amour. Vivez dans l'amour, littéralement marcher dans l'amour. Il s'agit de continuer à accueillir cette présence du Dieu trinitaire, à lui rendre un culte, à le louer, à l'élever, comme on va encore le faire tout à l'heure, ce sera un bel aboutissement de ce culte. Mais peut-être en mettant l'accent particulièrement sur cette notion de la communion horizontale, j'aimerais dire deux choses. Il y a d'abord, en suivant l'exemple du Christ, puis là, ça devient quand même un peu plus incarné, si vous voulez, puisque c'est Jésus qui est Dieu venu parmi nous, donc c'est son exemple qu'on va suivre, c'est d'abord continuer à pratiquer le pardon. Et vous l'avez vu là, cette affirmation, soyez donc imitateurs de Dieu, est entourée du rappel de la compassion de Dieu, de sa bonté qui s'est manifestée en Christ, qui nous permet justement de suivre Dieu. Et puis, du rappel aussi de ce don sacrificiel du Christ pour nous. Alors le pardon, cette pratique du pardon mutuel aujourd'hui et demain comme hier, reste centrale à la vie communautaire. Alors quand on n'a pas de problème avec des personnes, et c'est sûr que si on ne se fréquente pas trop, c'est encore relativement facile. Tant mieux, si on n'a pas de problème, aucun problème par rapport à cela. Donc, il ne faut pas les chercher. Mais j'ai été frappé ces dernières années, peut-être c'était seulement dans ce que j'ai vu, de la difficulté qu'ont des chrétiens et que moi j'ai parfois de pardonner, de reconnaître que j'ai bugué, de le reconnaître devant le frère ou la sœur et de demander pardon. Ou d'aller trouver un frère et une sœur pour lui dire, écoute, je ne sais pas tout, je ne sais pas forcément le pourquoi, mais sache que ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Difficulté de faire face à ces choses, et c'est difficile, parce que ça implique et moi et l'autre. Alors, pourquoi ça peut être difficile? Vous pouvez vous adresser à Bernard Bailly qui a approfondi ça sous toutes les coutures, hein, comme par la relation d'aide. C'est vrai, pourquoi c'est difficile? Ben déjà parce qu'on ne veut surtout pas le faire à la bon marché. Pardonne et puis tout est réglé. Comme on le fait des fois avec les petits-enfants. Bon, écoute, il faut que tu demandes pardon. Et l'enfant dit, bon, il faut que je demande pardon pour m'en sortir, sinon je n'aurai pas de dessert. Alors voilà. Mais quand on est adulte aujourd'hui, une des raisons... ces dernières années que j'ai observées, et ça ne date peut-être pas de ces dernières années, pour lesquelles on a de la peine à demander pardon, c'est qu'on ne veut surtout pas que ce soit une sorte de truc bon marché. Hein. C'est un peu plus compliqué psychologiquement parlant. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Et puis quand c'est plus compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On essaie quand même de trouver une solution. Mais ce que je trouve déjà, de pouvoir des fois simplement dire, quand je sais au fond de moi-même que j'ai bugué, ou quand je sais au fond de moi-même que j'ai été blessé, de déjà faire ce qui fait partie du béaba de l'Évangile. Premier point, se pardonner mutuellement aujourd'hui encore, parce que c'est tellement essentiel, parce que ça reste tellement essentiel pour que le ciment qui tient l'Église ensemble, l'amour fraternel réaliste, et pas juste un amour idéal, continue à nous tenir ensemble, à nous permettre d'être une communauté qui modélise le pardon de Dieu. Et le deuxième point, donc juste un rappel, le pardon est un cadeau que Dieu nous fait, tellement précieux, alors ne le négligeons pas. Et le deuxième point, et ce sera mon dernier point avant la conclusion, c'est cette disposition de don de soi qui a animé le Christ et avec laquelle il nous envoie dans le monde. Cette disposition de don de soi. Et c'est pour ça qu'il faut écouter, continuer à écouter les évangiles, parce qu'on entend le Christ au travers de ce qu'il a vécu, au travers de ce qu'il a fait. Et cette disposition de don de soi, qui est le signe par excellence de l'amour agapé de Dieu, cet amour unique que Dieu seul peut nous apporter, ben elle est centrale. Et pour terminer avec quelque chose de très concret, de l'impact de l'évangile, j'aimerais donner un seul exemple de comment Dieu peut venir transformer notre manière assez naturelle d'agir, qui est une réalisation de notre ego, en quelque chose qui fait partie du don de soi, parce que peut-être vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un verset que je trouve tellement excellent, que je trouve tellement particulier, c'est en un verset, toute une illustration de ce que c'est. Paul dit notamment que celui qui volait cesse de voler. Bon, c'est d'accord, c'est pas très bien de voler, par les 10 commandements. Qu'il se donne plutôt de la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Bon, encore faut-il avoir du travail, d'accord, longuement épilogué là-dessus. Mais quand même qu'il se donne plutôt, voilà, parce qu'on est dans un monde concret, réel, il faut souvent travailler pour manger. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Pourquoi travailler de ses propres mains? Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je trouve que c'est un de ces versets qui est placé comme ça dans une série de ce qu'il ne faut pas faire et qui montre toute la puissance transformatrice de l'évangile. Quand celui qui volait, qui vivait d'une manière malhonnête, est touché par Dieu et se rend compte qu'il y a peut-être autre chose à faire que de voler, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, pour que ma personne puisse devenir un cadeau pour le prochain. Je trouve que c'est une belle illustration de ce deuxième point. Continuer à apprendre à s'encourager dans cet amour don de soi auquel Dieu nous appelle. C'est un défi lancé à notre engagement et notre créativité pour être des témoins de cet amour débordant de Dieu là où nous vivons dans notre quotidien. Voilà. C'est Philippe qui m'a dit que chez vous, on pouvait prendre un certain temps pour un message. Alors moi, chez nous, c'est plutôt 20 minutes comme ça. Alors il m'a dit, bon. Êtes-vous d'accord qu'on s'engage? C'est toujours bête de poser cette question, parce que ceux qui disent, oh, non, ben, ils n'osent pas lever la main. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre un engagement ensemble, en nous levant quand même ensemble, et puis j'aimerais prier pour nous. Et je dis nous, hein, je m'inclus, parce que moi j'ai besoin de pouvoir continuer à mettre en pratique le pardon. Moi j'ai besoin de continuer à être inspiré par l'esprit créateur qui nous donne la créativité pour transformer des fois des pulsions qui ne sont pas très bonnes en potentiel d'engagement pour exprimer l'amour don de soi de Dieu. Et avec ça, l'Église, qui du temps du Covid est plutôt malmenée, ben elle va continuer son boulot. Pas avant tout à cause de nous, mais aussi à cause de nous. Et pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu vivant, 3x5, nous allons célébrer encore pour la dernière partie de ce culte, est vivant. Et il est présent au milieu de son Église, en particulier, pour qu'il continue à être présent dans le monde, bien au-delà de ce que nous pouvons faire, mais au travers de nous aussi. Je vous invite à vous lever, Et si vous voulez rester assis, parce que vous avez une sorte de... Voilà, on n'aime pas trop suivre, hein. On n'est pas des moutons. Non, on n'est pas des moutons. Là, on est des êtres précieux aux yeux de Dieu, que Dieu continue à façonner par ses mains d'amour pour qu'on ressemble au Christ. Seigneur, j'aimerais te remercier de tout cœur pour cette communauté qui t'appartient. Tu t'es révélé à chacun d'une manière ou d'une autre, tu continues à le faire. Tu veux faire connaître cette magnifique réalité de Jésus-Christ, notre top modèle qui nous a touchés, qui nous a appelés, qui continue à nous conduire sur un chemin de transformation. Et tu veux le faire aussi les uns avec les autres. Alors merci de continuer à visiter cette communauté. Donne à chacun de pouvoir être en bénédiction les uns pour les autres. Et donne-nous, Seigneur, là où nous sommes, là où nous vivons, d'être des expressions de cet amour don de toi, don de soi que tu nous as enseigné en Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne et continue à faire vivre cette communauté pour la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté.
transformer en présence de ta majesté.
Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras entrouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai.
Et pour finir, Abba Père.
Être au Père, à lui seulement, nous voulons le vivre d'une manière toute pratique, sous différentes facettes, dans la semaine et les jours qui viennent, et c'est Mathieu qui va nous le partager.
Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler un peu de notre vie d'église ce matin. On a la chance d'avoir une vie d'église bouillonnante, avec plein de gens incroyables qui font des projets incroyables. Tout d'abord, j'aimerais vous parler des Paquet de Noël, c'est une action qui est menée par par Anne-Marie et Annick Dubost, si je ne me trompe pas. Les paquets de Noël, c'est quoi? C'est une action d'amour et de solidarité avec des personnes qui sont dans le besoin dans les pays de l'Est, par exemple la Bulgarie, la Roumanie, il y a l'Albanie, la Moldavie, etc. Et il s'agit de confectionner des paquets de Noël pour les enfants et les adultes de ces pays-là, dans nos églises, par des dons en nature. Donc on va commencer à faire les paquets de Noël pour adultes tout bientôt, donc dans 10 jours, les mercredis 3 novembre et les jeudis 11 novembre. Donc c'est super important de s'inscrire sur le tableau qui est dans le foyer pour cette confection, c'est juste ? Ouais. Et c'est avec une énorme reconnaissance que vous pouvez apporter des dons en nature, donc des habits chauds type écharpe, bonnet, gants pour adultes et enfants dès 6 ans, des jeux ou jouets neufs ou à l'état neuf, et des bougies. Tout à déposer dans le panier qui se trouve en bas. Ouais, les paquets pour les enfants sont confectionnés par l'école du dimanche dans 2 semaines, donc le dimanche. Et ce serait vraiment chouette si vous pouviez apporter tous les articles d'ici dimanche prochain, histoire qu'on soit prêt. Il y a aussi des tirelires en carton qui sont mis à disposition juste dehors pour les dons en liquide. Et pour toute question complémentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez vous adresser directement à Anne-Marie qui est ici. Tu peux lever la main comme ça, on voit qui t'es. Ensuite, dans 2 semaines, le 7 novembre, on aura un culte mission. C'est le dimanche de l'église persécutée et on aura la chance d'écouter Jean-François Negrini sur le sujet. Et du coup, notre rencontre du dimanche matin aura 2 collectes différentes. Une collecte régulière pour les activités de l'église, puisque l'église vit de ses dons, on le rappelle, et puis vous avez toujours le code bancaire et puis le Twint qui est juste derrière avec le panier. Et une collecte distincte qui sera effectuée pour dans le cadre du dimanche de l'église persécutée. Ensuite, mardi soir prochain, à 20h, il y aura le dernier atelier biblique avec pour titre « Et quand on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ?» qui sera animé par Philippe Anchaud. Célina sera en vacances durant la semaine prochaine. Et une autre annonce concernant la comédie musicale de Georges Muller. Donc ce samedi 6 novembre, on aura la chance d'accueillir dans les locaux du Théâtre Forum Mérin une troupe qui jouera la comédie musicale sur la vie de Georges Muller, qui est donc un missionnaire anglais qui a notamment œuvré pour les orphelins et pour l'évangile. Et c'est une occasion vraiment rêvée de pouvoir inviter votre ami ou votre ami avec qui vous essayez de parler de Christ et puis vous hésitez un petit peu. En tout cas, moi, je sais que je saute sur l'occasion pour inviter quelqu'un pour cette comédie musicale. Est-ce que Thierry, tu aimerais venir pour tout ce qui est aspect pratique ou préciser quelque chose en particulier ?
Je crois pas, tout à l'heure, tout a été dit. Je continue à me tenir en disposition à la fin du culte des questions concernant la première.
Merci. Donc il y aura 2 représentations, une à 15h30 et une à 20h, c'est juste ? Ok, super. Donc ça, c'est le samedi 6 novembre, pardon. Pour dimanche prochain, pour celles et ceux qui ne sont pas encore au réveil avec leur natel, faites attention au changement d'heure. En octobre, on recule, en avril, on avance. Et dernière annonce, ouais, si tu désires t'impliquer durant le dimanche, Thomas nous a parlé du don de soi, on a la chance maintenant de pouvoir de nouveau faire, alléluia, le café à la fin du culte, et on cherche des personnes pour s'occuper de ce tournus-là, de faire des cafés, de tirer les cafés à la fin du culte. Donc pour ça, merci de s'adresser à André Dufour. Est-ce que tu es là ce matin? Elle est déjà au café. Donc voilà, si ça vous dit de vous impliquer dans ce service-là, adressez-vous à la personne qui est en train de faire des cafés. Et pour moi, j'en ai terminé. Et je invite Thomas à venir. Merci.
vous invite à vous lever. Dieu vivant, toi qui en Jésus-Christ nous as manifesté ton amour, sois béni pour ces moments vécus ensemble. Merci de ce que si nous venons devant toi, nous venons devant toi pour être visités, bénis et pouvoir partir avec la bénédiction de notre Père Céleste, le Père d'amour, du Seigneur Jésus-Christ, de sa grâce qui continue à nous accompagner par le Saint-Esprit dont nous demandons, nous réclamons la puissance pour vivre à la gloire de Dieu. Amen. Et bon dimanche à tous.